Et nous allons voir le chapitre 11 et 12 du livre de Néhémie. Et je ne sais pas si vous avez eu le temps de jeter un coup d'œil là-dessus, de lire ce chapitre, ces deux chapitres-là. Et c'est beaucoup de noms, c'est beaucoup d'attributions de rôles. Et ce chapitre débute avec ce que nous disons, c'est le repeuplement, disons. La repopulation de Jérusalem, les deux chapitres. C'est le sujet qui est traité dans les deux chapitres. Dans le chapitre 11, on voit, et le début du chapitre 12, la repopulation de Jérusalem. Et dans le chapitre 12 aussi, dans le verset 27 jusqu'à la fin, on parle de la dédicace de la muraille qui a été bâtie. On parle des nouveaux résidents de Jérusalem. Et pourquoi le mot « nouveau » C'est parce que quand il dit « nouveau », il y a quelque chose qui est nouveau, qui n'était pas là, qui va être là. La question, c'est de pourquoi repopuler Jérusalem? Est-ce qu'il y a une raison? Vous vous rappelez? Le texte est là. Nous avons vu dans Néhémie, chapitre 7, les versets 4, la ville était spacieuse, il y avait de l'espace, c'était grand, mais le peuple était petit, peu peuplé. Et les maisons n'étaient pas bâties. Quel scénario, hein? Une grande ville, beaucoup d'espace et pas beaucoup de monde. Et l'image que nous avons eue du frère de Néhémie, vous vous rappelez dans le chapitre 1er? C'était délabré, hein? C'était une désolation là-bas à Jérusalem. Malgré les travaux qui se sont accomplis, nous avons vu avec Esdras et Néhémie jusqu'à l'érection de la muraille, il y a encore cette situation de désolation dans la ville. Les gens se sont, dans certains chapitres, certains versets qu'on avait vus auparavant, les gens se sont installés dans les villes, dans les villages, en périphérie de la ville. Alors il y a un besoin maintenant pour peupler la grande ville. Alors, comment est-ce que ça va se faire? Un grand défi, un grand projet. Si c'était à Montréal aujourd'hui, je ne suis pas le maire de Montréal. Si c'était à Laval, je ne sais pas dans quelle ville vous habitez, si cette ville-là était vide, quasiment vide, comment est-ce qu'on, en tant qu'autorité, comment est-ce qu'on s'y prendrait? Nous avons un modèle que Néhémie raconte ici. Il dit dans le premier verset, les chefs du peuple s'établirent à Jérusalem. Le reste du peuple tira au sort pour qu'une personne sur 10 vienne s'établir à Jérusalem, la ville sainte, et que les 9 autres restent dans les autres villes. Le peuple bénit ceux qui consentirent volontairement à s'établir à Jérusalem. Alors, c'est l'introduction du chapitre, dans le chapitre 11. S'introduit comme ça, et on voit beaucoup d'éléments là-dedans, dans le chapitre, dans l'introduction. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un défi. Le défi est là, nous l'avons identifié tantôt. Comment faire déplacer tout ce monde-là vers une nouvelle ville, qui avait une autre ville qui avait un aspect pas vraiment attrayant. Il n'y a pas beaucoup de monde qui aimerait aller vivre dans cette ville-là comme on l'avait décrit. Mais, en lisant le texte, nous croyons voir un peuple qui s'attache à la parole. Nous l'avons vu avec Ronald dans les deux premières semaines, comment le peuple est allé chercher la parole. Ils se sont instruits, ils se sont appropriés de la parole. Et nous croyons que c'est le fait de comprendre, de s'approcher de Dieu, de s'accrocher aux promesses de Dieu, que ce peuple, ce travail va être très, très, très facile à faire. Nous allons le voir. Et c'est vrai pour le repeuplement de Jérusalem, et nous savons que c'est vrai dans nos vies aussi. Quand on s'approche de Dieu, on nourrit cette relation-là avec Dieu, on marche avec lui, comme nous avons vu la semaine passée. Il dirige notre vie, nos décisions sont plus faciles à prendre. On peut compter sur sa fidélité dans nos décisions. Et devant ce grand défi-là, on croit que le peuple s'est accroché à la promesse de Dieu. Et si quelqu'un peut lire Zacharie, chapitre 2, verset 4. S'il vous plaît, je ne l'ai pas écrit.
Il lui dit, cours, parle à ce jeune homme et dit, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle.
Alors, dans ce texte de Zacharie, nous vous rappelons que Zacharie c'est, a prophétisé dans le même temps que Agée, nous l'avons vu dans le cours. Fait que, il fait là cette prophétie que Jérusalem dans son rêve, comme Dieu l'a approché, et que Jérusalem, il va avoir une multitude de personnes dans Jérusalem. Et cette promesse, nous croyons que le peuple s'est accroché à cette promesse-là, que Dieu veut que Dieu leur promet que Jérusalem sera peuplée. Même si la situation actuelle ne prouve pas, ne nous témoigne pas d'une ville qui est peuplée, mais la promesse est là. C'était faite par Zacharie. La ville sera peuplée. Et basé sur cette promesse-là, le peuple va aller de l'avant. Une chose qui est claire là-dedans, c'est que quelque chose qui leur sera forcé. On ne va pas leur obliger de laisser leur village, leur propriété à l'extérieur de la ville pour s'intégrer dans Jérusalem. Alors, le texte nous parlait là, il nous dit des volontaires. Le peuple bénit ceux qui consentirent volontairement à résider à Jérusalem. Il y a un appel à tous. Qui est-ce qui veut venir à Jérusalem? Malgré la situation actuelle. Et il y a beaucoup de gens qui veulent venir. D'abord, nous voyons les chefs, les sacrificateurs qui s'installent. Sentir qu'il y a un mouvement naturel de la part de ces chefs-là qui veulent s'installer. Et peut-être pour toutes sortes de raisons, on peut faire pas mal d'hypothèses par rapport à l'installation des chefs dans une grande ville. On peut comprendre cela. Mais nous croyons aussi que ces hommes-là, qui étaient des hommes de Dieu, ils croyaient à cette promesse-là et qu'ils se proposaient eux-mêmes d'aller habiter à Jérusalem. Nous voyons aussi une façon de procéder dans le passé qui est appliquée ici aussi. Qu'est-ce qui est appliqué par le peuple? C'est qu'il y avait un tirage au sort. Un tirage au sort. Il y a des gens qui peut-être ne croient pas à cela. Aujourd'hui, je pense que c'est moins utilisé, mais dans la Bible, on voit tellement de décisions qui sont faites à partir de tirage au sort, même le 12e apôtre, là, hein, après la mort de Judas. Ça s'est fait par tirage au sort. Et nous croyons que, dans leur compréhension, le peuple croyait que Dieu allait agir, même dans leur décision d'aller au sort, au hasard, au pif, que Dieu allait manifester sa volonté. Et Proverbe nous en parle. Quelqu'un peut lire Proverbe 16:33, qu'est-ce que ça dit?
On jette le sort dans le sein de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel.
Toute décision vient. Je peux que, fort de cela, je pense que le peuple peut aller de l'avant avec cela. Je vais jeter mon sort, oui, et ils sont clairs dans leurs affaires, là, hein, ils ont fait la mathématique. 1/10, un dixième de tous ceux qui vivaient à l'extérieur de la ville, on va jeter le sort, et puis 1/10 de ces personnes-là vont venir s'installer à Jérusalem. Mais, on sait que la décision finale, c'est Dieu qui va motiver les sorts, les intentions, qui va faire que il va choisir ces personnes-là pour son plan. N'oubliez pas qu'au départ, le plan, c'était un plan de Dieu, n'est-ce pas? Le plan de Dieu qui a suscité qui? Cyrus, oui, et puis qui est allé chercher tout ce qu'il lui faut avec Esdras, avec Zorobabel, et puis Néhémie par après. Tout ce monde-là, c'est dans la volonté de Dieu, c'est Dieu qui suscite, qui donne les moyens pour... C'est un plan de Dieu. Puis Cyrus leur dit, allez bâtir la maison de votre Dieu. Dieu lui-même lui avait mis à cœur à ce roi païen, perse, d'aller bâtir. Fait que le plan là, originalement, le plan initial, c'est un plan de Dieu. Il faut jamais l'oublier, et ceci, je le dis, dans un contexte chrétien, évangélique que nous sommes, que nos plans qui sont devant Dieu, il faut jamais oublier que les plans, le plan de Dieu, ils réussissent tout le temps. Mais que même si les situations sont difficiles, des choses qu'on ne comprend pas, il faut toujours s'accrocher aux promesses de Dieu, et sachant que Dieu va accomplir sa promesse. En son temps, il va accomplir ses promesses. Et dans la vie, il y a tellement de déceptions. Et si on se compte, on mise sur nos décisions, nos plans, et on est souvent déçu. Il y a un exemple très simple. Si je vivais dans le temps de Jésus-Christ, là, même les disciples, ce serait moi, je serais déçu. quand on regarde tout cela, là, le gars qui se dit le sauveur, en fait, qu'on connaît par histoire et puis par réalité, par révélation, qu'il est le sauveur de l'humanité. Comment qui est mort? Qui est abandonné? Il y a de la déception là-dedans.
Oui, incompréhension.
Ah, on peut pas comprendre, on peut pas saisir ça. Nous, aujourd'hui, on ne peut pas le saisir. Imaginez eux dans le temps là. Puis, lisez la Bible, vous allez tellement voir de déception à l'œil humain. Lazare, par exemple. Mettez-vous à la place de Marthe et de Marie. Leur frère est mort là. Seigneur, hey, viens-t'en. Mon frère est mort. Oh non, il dort. C'est déception. Les jours passent là, il ne vient pas, Jésus-Christ. Dans le cœur de ces personnes-là, c'est de la déception. Mais Jésus-Christ a un plan là-dedans. Il y a un plan. Et c'est vrai pour chacune de nos vies aujourd'hui. Dans ce plan-là, on a déjà vu pas mal de choses qu'on ne comprenait pas hein, dans l'histoire de son peuple. Mais nous voyons que finalement, Dieu se révèle son plan et c'est Dieu qui a la victoire. Son plan se réalise à sa gloire, bien entendu, à sa gloire. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui là. Le peuple qui fait face à un défi de peupler une ville qui est délabrée, mais qui fait confiance à son Dieu et qui utilise les moyens qu'ils ont pour en arriver là. Et nous voyons un réveil national. Nous avons vu, en fait, la semaine passée, les deux semaines passées, il y avait un réveil, n'est-ce pas? Où c'était qui a été chercher la parole, les lois? C'est le peuple lui-même, c'était l'intention même du peuple qui a été chercher les lois. Et puis ils ont juré, ils ont devant Dieu pour l'accomplir. Voyons cette conscience-là, une pleine conscience de leur relation avec Dieu. Tout d'un coup, Dieu était leur Dieu. Peut-être qu'ils ne savaient pas cela. N'oublie pas, ces gens-là sont là-bas, sinon pas tous, mais ils sont nés en exil. L'histoire de cette promesse de l'Alliance, peut-être ils l'ont entendue vaguement. Mais là, ils sont en train de le vivre, là. Ils sont en train de le vivre parce qu'ils ont été chercher, et Esdras a été chercher la loi, ils ont lu la loi, etc. Ils ont juré d'être obéissants à cette loi-là. Et ça, nous pouvons voir que ça fait une transformation dans la vie de ces gens-là. OK? Et je pense que c'est quand on nourrit cette expérience, cette relation avec Dieu, c'est là qu'on peut vraiment chanter avec Dieu. Nous ferons des exploits. Ça, c'est pas juste un chant dans ce temps-là pour nous, là. C'est une réalité. Avec mon Dieu, je ferai des exploits. Je ferai des exploits. Et ça, c'est un grand exploit aussi. Et le peuple le savait. Ils se sont rendus compte que nous sommes le peuple de son alliance. Waouh! Dieu a juré à son. C'est leur patriarche, bien entendu. Mais ils sont les héritiers de cette promesse-là. Ils ont compris ça. À la lecture de la loi. Ça leur donne confiance. Ils ont une entière confiance, fait que je suis devant mon Dieu, je suis dans son plan, peu importe ce qui est arrivé, il veut que je m'en aille à Jérusalem. Oui, je m'en vais à Jérusalem à toute confiance, ça va bien se passer. Mais regardez aussi une forme de gouvernement démocratique. Je ne sais pas si vous l'avez vu là-dedans, là. Hein? Une forme de démocratie qui est là. C'est le peuple qui choisit, c'est le peuple qui... Le pouvoir est partagé entre... Nous allons le voir plus tard, si vous en faites... C'est dans le texte, je ne pense pas qu'on aura le temps de lire tous ces noms-là, la répartition des chefs. On voit il commence avec les tribus de Jérusalem et de Benjamin. Ensuite, il va s'en aller dans les sacrificateurs, après les Lévites, après tous les peuples. Puis il y a des chefs qui sont désignés à droite et à gauche. Ils sont identifiés. En fait, c'est dans le style de Néhémie, nous l'avons vu. Il veut que les gens sachent qui est-ce qui les gouverne et maintenir cette relation de confiance entre les gouvernés et les gouvernants. Alors, c'est une forme de démocratie, on peut le dire. Le peuple choisit, c'est le peuple qui choisit. On va y aller par le sort. Fait que le peuple participe à ce mouvement. Est-ce quelque chose qui est facile? On vit dans un pays démocratique, c'est facile. N'est-ce pas? On parle de cet effet-là, du résultat, de cette approche, de cette conscience de leur Dieu, de leur relation avec leur Dieu, là. On voit les fruits de cette relation, de cette connaissance devant Dieu. Nous avons parlé de cette démocratie, là, où tout le monde est prêt à s'impliquer, n'est-ce pas? Tout le monde est prêt à faire sa part dans le processus. En nommant des chefs, on accepte qu'on soit contrôlé, n'est-ce pas? Est-ce que c'est facile, ça? OK? Alors, En plus, quand on choisit des chefs, il faut délimiter les limites du pouvoir. Hein? C'est un travail à faire. C'est-tu facile, ça? Accepter des responsabilités. Ce n'est pas quelque chose qui est facile. Et être fidèle là-dedans, là. OK? Et tout ce qu'on voit là, est-ce que vous êtes d'accord, c'est le résultat d'une bonne relation avec Dieu? Moi, je suis d'accord avec ça. Puis je crois que c'est vrai. On ne peut pas en arriver là avec notre état d'âme, homme, orgueilleux. Non, on ne veut pas se faire contrôler. On veut pas s'impliquer des fois. Il y a des gens qui sont réfractaires à l'autorité. Mais dans toute la Bible, qu'est-ce qu'on voit? Des modèles d'autorité. À droite et à gauche. Commençons avec Dieu. Il donne ce même modèle à tout le monde, dans les chefs qu'il établit, les gouvernements. Il nous dit aux chrétiens d'obéir. Pas parce qu'ils sont bons. Mais c'est le modèle que Dieu préconise. Il nous aide dans notre humilité, là, je pense que ça. Un modèle d'autorité que nous avons. Dans le chapitre 11, verset 4, je vous invite à faire une petite réflexion. Parce que si tu commençais à dire les noms, là, on va se perdre les noms. Mais on comprend l'idée. On comprend l'idée, l'établissement des chefs, etc. Le dénombrement, on parlait, c'est le dénombrement. Qu'est-ce qui... c'est dans toute la Bible, on voit ça. Il y a même un livre juste là-dessus, les nombres, qui parle du dénombrement. Et partout dans la Bible, on voit ces dénombrements-là. C'est intéressant. Dans ce texte-là, moi, ce qui m'a touché, c'est de voir la... Ça me donne une meilleure compréhension quand on parle de l'exactitude, de la fidélité dans le texte, comment c'est Dieu qui inspire les textes, même à travers le temps. Et les fils de Juda et les fils de Benjamin s'établissent. On voit deux tribus, n'est-ce pas, qui s'installent à Jérusalem. OK? Ça, c'est pas peu dire cela. Si vous remontez dans le temps, je sais pas combien d'années avant, minimum 70 ans, parce qu'ils ont passé 70 ans en exil. Okay? Dans Deux Rois, chapitre 25, verset 22, si vous avez le temps cet après-midi, c'est un excellent passage dans tout. Lisez le livre des rois. Vous allez voir. Il est dit, ainsi Juda, il parle de qui c'est? Juda, un homme ou bien la tribu? Allô? La tribu de Juda. Oui, la tribu de Juda, qui est amenée où? Loin de son pays, en captivité. C'est où cette captivité-là? Babylone. C'est Babylone. Ils sont enlevés de Juda, de Jérusalem, pour s'en aller à Babylone avec Nebuchadnezzar. Vous connaissez l'histoire? Ouais, ils sont allés là. L'histoire dit, ben, Dieu leur avait dit, ils auront à passer combien d'années? Combien d'années? 70 ans en exil. Et c'est fait. 70 ans sont passés. Et maintenant, qui est-ce qui est venu s'établir? Wow! Moi, je trouve ça merveilleux. Ces mêmes personnes-là, bien identifiées clairement, là, dans la Bible. Dans Deux Rois, lisez tout le texte, vous allez comprendre. Mais ils sont amenés à cause des mauvaises actions des rois, etc. Là. Mais c'est ce que Dieu leur avait dit. Si vous faites ce qui n'est pas correct, je vais vous emmener. Et dans la prière de Néhémie, vous vous rappelez, il a mentionné au Seigneur, il dit, tu nous avais dit, si tu en écoutes, ben, tu n'écoutes pas, tu vas nous amener en exil, mais tu vas nous ramener. Intéressant, vous voir, pourquoi il mentionne le fils de Benjamin, tandis que c'était pas clair dans Deux Rois qui était, que les fils de Benjamin étaient là-dedans. Ben, les fils de Benjamin. Vous savez que, avec le schisme, la division, Israël du Sud, Israël du Nord, sous Roboam, ok? Alors, Israël a été divisé, une partie est allée avec Jéroboam, et une partie Juda, bien entendu, est restée fidèle à David, ok? Et puis, dans le chapitre 12, verset 17 à 21, vous pouvez tous lire ça, il y avait la petite tribu de Benjamin, qui s'est joué à Juda. Que quand l'exil s'est fait que ce n'est pas juste Juda qui est parti, mais une partie de la petite tribu de Benjamin est partie aussi en exil. Alors pour moi, ça, c'est quelque chose de voir cette fidélité, cette dans la Bible, dans la parole de Dieu, où Dieu amène son peuple, comme il a demandé, comme il a voulu, à cause de son désobéissance, en exil, et que maintenant, après l'exil, qu'il retourne à Jérusalem, qu'il s'installe. Les deux tribus sont mentionnées. Les deux tribus sont mentionnées. Israël et Benjamin sont mentionnés comme ceux qui reviennent à Jérusalem. Alors, en grosso modo, c'est ce que nous avons vu dans le chapitre 11. En chapitre 11, on voit l'établissement des chefs. Et on voit les sacrificateurs. On va, et ceux-là qui ont eu le temps de voir aussi, on va retourner avec ça dans le chapitre 12, on va voir aussi les Lévites. Mais dans ce problème, dans le cas du chapitre 12, on commence avec le dénombrement des sacrificateurs. Et j'en parlais à Ronald cette semaine. Puis on voit si vous avez le temps de lire le livre des Chroniques, 1 ou 2 Chroniques, tu vas voir, c'est presque les mêmes noms qui se répètent. C'est presque les mêmes noms, en fait. Les mêmes noms se répètent, là, comme les sacrificateurs. Et on voit un travail de scribe qui est vraiment fidèle qui a été fait à travers le temps. Dieu qui a inspiré cela, n'est-ce pas? Pour que des hommes s'intéressent. En fait, il l'a dit, nous l'avons vu dans l'Exode, écrivez cela pour que le souvenir s'en conserve. Dieu voulait que ça reste, que nous ayons accès à cela aujourd'hui, cette parole, comment est-ce que Dieu a été fidèle à travers les âges, qu'est-ce qu'il a décidé, et ces paroles ne passeront pas. Et c'est bien cela. Dans le chapitre 12, on parle du dénombrement des sacrificateurs. Les sacrificateurs, on peut les appeler les prêtres aussi, c'est correct? C'est des prêtres, ok? Et aussi des lévites. Dans le chapitre 12 aussi, à la deuxième partie du chapitre 12, on voit la dédicace de la muraille. Oups. Dans le bon sens. OK. Quand vous lisez votre Bible, je sais que vous voyez ces textes-là, souvent, sacrificateur, lévite. Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux-là?
Oui.
OK. Allez-y.
Les sacrificateurs sont lévites. Mais les Lévites ne sont pas tous sacrificateurs.
Ah, vous avez tout compris. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? OK. Parce que la tribu des Lévites, c'est ce que Dieu a décidé qu'ils seraient les sacrificateurs. Pas compliqué. Si tu n'es pas de cette tribu-là, tu ne seras pas sacrificateur. En fait, je pense qu'il y a des petites exceptions ici et là. Mais en général, c'est de cette tribu-là, des Lévites, que les sacrifices proviennent, les sacrificateurs proviennent de là. À la lecture de ce texte-là, nous pouvons voir que dans l'assignation des tâches que Néhémie fait, les sacrificateurs faisaient des fonctions dans le temple, comme les prêtres. Leur office, c'était le temple, à l'intérieur du temple. Ils faisaient des sacrificateurs, des sacrifices, entre autres, qui offraient des prières, etc. Et les autres, les autres lévites, ils travaillaient à l'extérieur du temple. Il y a peut-être qui gardaient les portes, il y en a qui peut-être, etc., qui allaient chercher les animaux, etc. Je sais pas exactement les tâches, la définition de toutes les tâches, mais ils travaillaient à l'extérieur de la porte. Oui.
Il y en avait plein des tâches. Il fallait que
Il y avait de l'ouvrage.
Les huiles pour les lampes.
Oui.
Il y en avait plein d'ouvrages.
Plein d'ouvrages.
Le lavage de la vaisselle, je veux dire, il y avait de la vaisselle.
Il y en a des fois, on a vu même le lavage de la maison. La maison d'Éternel. Avec tous ces sacrifices-là, il y a du sang.
Et quand il y a un crochet du rideau qui se casse,
C'est ça. Et nous avons vu, là, dans le livre d'Exode que nous avons étudié, là, c'est détaillé pas mal de tâches qu'il devrait faire, là. Vous savez qu'au temps de David, en fait, Néhémie a repris presque le même modèle. C'est le même modèle que nous avons vu avec David. C'est juste qu'ici, ils sont en plus petit nombre. Okay? David, dans le temps de David, il y avait 138 000 sacrificateurs. En tout cas, pour moi, la tâche était grande. Et on parle d'un peuple qui sont peut-être repartis dans plusieurs communautés, n'est-ce pas? Mais ce qui me touche là, tout ça, là, comme tu dis, pourquoi autant?
Oui.
Ça, moi, là, ça me dit comment j'ai péché. Combien le péché? Combien les hommes ont besoin d'un sauveur, comme de quelqu'un pour offrir leur sacrifice? Il y en a là. Et pour moi, c'est le plan de Dieu. Dieu a pensé jusque ça. Pour donner autant de sacrificateurs pour le service du peuple, pour la purification. En fait, pour amener à la purification du peuple, n'est-ce pas? C'est l'une de leurs causes, c'était cela. N'est-ce pas? C'était cela. Et David les a repartis en plusieurs catégories. Et nous voyons presque la même chose ici avec Néhémie. Il n'y en avait pas 138 000, c'est sûr. Parce que c'est un petit peuple qui vient de commencer. Mais la fonction était nécessaire. La fonction nécessaire parce que le péché abonde. Les humains vont pécher. Et Dieu, déjà avant l'envoi même de Jésus-Christ, pour être le victime expiatoire, puis le sacrificateur, le souverain sacrificateur par excellence, il a désigné ici et là des hommes, des pécheurs comme nous par exemple, qu'il a mis à part pour ce service-là, pour présenter les offrandes pour le peuple, pour la purification du peuple. Et dans l'Exode, on le dit vrai, Jésus-Christ, en fait, le texte nous dit que toutes ces démarches-là que vous allez faire, quand il donne toutes les étapes à la purification, finalement, Dieu dit, c'est moi qui vais m'approcher de vous. Pas parce que vous avez fait tous ces rituels-là, là, que ça vous sauve, ça vous rend pur. Non, moi, je veux rencontrer, vous purifier, c'est moi. L'œuvre finale, c'est moi, c'est la grâce, n'est-ce pas? Pas parce que nous avons fait quelque chose qui soit correct. Toutes nos démarches, mais c'est comme des vêtements souillés, dit le texte. Hein? Toute notre justice, c'est comme des vêtements souillés. Et Dieu, lui, il fait le travail initial d'envoyer Jésus-Christ et il fait le travail continu de sanctification. Avant le Saint-Esprit, il y avait toute cette gang-là qu'il a désignée. Des hommes comme nous, qui doivent offrir des sacrifices pour le peuple et des sacrifices pour eux-mêmes aussi. Vous êtes d'accord? Parce que nous sommes des pécheurs. Et Dieu, dans sa grâce, il décide de pardonner des pécheurs comme nous et nous donner accès à son trône. Et ça n'a pas commencé avec Jésus-Christ. Cette fin de semaine, on parlait que ça a commencé avec même l'arrivée de Jésus-Christ sur terre. En fait, avant même l'arrivée de la création d'Adam et Ève. Pourquoi est-ce que Dieu avait besoin de créer les hommes? Après, il les crée, ils ont péché, mais il dit, bon, je vais venir les visiter. Je vais maintenir une relation avec eux. Ils ont péché, mais je vais pourvoir à une brebis. La grâce commence depuis là, n'est-ce pas? La grâce est là. Et tout le long de l'Ancien Testament, Jésus-Christ vient mettre la cerise, quoi, la sundae sur le cerise sur le sundae, là, c'est ça qu'on dit? La cerise sur la sundae. Les rendre accessibles, nous, Jésus-Christ a tout payé pour nous. On n'a pas besoin de toutes ces personnes-là pour intercéder pour nous. En fait, nous sommes des sacrificateurs, qui dit même. On a accès direct avec Christ. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la grâce. Et nous voyons cette grâce-là dans toute l'histoire, dans l'histoire de son peuple, dans le peuple, dans toute l'histoire du peuple de Dieu. Et liste dans la Bible, mais le peuple de Dieu que nous sommes aujourd'hui, c'est la même histoire qui se répète. C'est la même espérance que nous avons. Si nous avons foi dans les promesses de Dieu, que finalement, on va passer l'éternité avec lui. Alors, on avait dit, un sacrificateur n'est pas un lévite, mais un lévite est un sacrificateur, mais un lévite n'est pas forcément un sacrificateur. Vous êtes tous d'accord avec ça? Vous avez tout compris, c'est ça. Alors, tout ce monde-là sont répartis pour le service pour le peuple. Et maintenant que c'est un travail qui est très bien organisé, n'est-ce pas? On voit l'assignation des tâches, la ville est repeuplée maintenant, il y a du monde là, c'est le fun. Mais il y a un objectif visé là. Et je pense que Néhémie n'a pas oublié cela. On est arrivé aux murailles. Et si il regarde dans son passé, et je pense que Néhémie, avec tout le peuple, peut compter les fidélités de Dieu en voyant cette grande muraille devant eux, n'est-ce pas? Quand ils pensent à tous les obstacles qu'ils ont eus, n'est-ce pas? Ça, c'est la muraille, mais revenons plus avant avec les autels. N'oubliez pas, ce peuple-là a vécu tout cela, là. Les obstacles qu'ils ont vécu avec l'érection des autels. Hein? Après ça, le temple. Après ça, la muraille. Ils ont dédicacé le temple, oui, mais ils ont, c'est le temps de dédicacer la muraille. Et comme nous avons vu avec Ronald plusieurs fois, ce sont des occasions de fête quand on parle de dédicace. Chez nous en Haïti, je pense qu'ils ont, ils ont pris ça à la lettre. Quand on fait des dédicaces des temples, là, c'est la bouffe, c'est la réjouissance, c'est... Pourquoi on ne fait pas ça, heureusement? Ah non, j'ai rien dit. C'est correct, c'est correct. Mais il y a des gens qui vont même, quand ils ont une nouvelle maison, dédier cette maison-là. Il y a certaines cultures, certaines personnes ici et là, quand Dieu leur donne une maison, achète une maison, ils vont dédier, ils vont faire un service d'action de grâce. Je pense que c'est une bonne pratique. Et... Oui, c'est une bonne chose. Puis, si Dieu vous met à cœur, un nouveau travail, un diplôme, n'importe quoi. Une action de grâce, un enfant. On ne présente pas les enfants au temple ici pour des raisons qu'on sait. Dédicacez votre enfant au Seigneur à la maison, à la famille. Pourquoi pas? Les bénédictions de Dieu. Et je pense que le peuple d'Israël avait compris ça à partir de son appropriation. Comment? Il s'est approprié la parole, cette parole, cette loi-là qui est nouveau, vif dans leur cœur. Là, hein? Ils ont compris cela et ils ont décidé de dédicacer la muraille. La muraille! Quand tu y penses vraiment, là. Mais la muraille, c'est un symbole pour eux d'une chose, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire pour eux, entre autres, dire pour...
La ville est rétablie.
Hein? Un bon nationaliste a dit, yes, on est chez nous maintenant, on est protégé, on a la défense, n'est-ce pas? Hein? On est fiers, on va peut-être avoir une armée bientôt, là. Right? Un vrai nationaliste va penser comme ça. Mais le vrai nationaliste va penser à Dieu d'abord. N'est-ce pas? C'est Dieu qui a permis tout cela. Et on va lui rendre la gloire. Et ils ne vont pas faire cela comme... ils vont faire une bonne fête. Et ils font appel à tous. Ils vont chercher tout le monde. Dans tout le monde, allez, c'est le temps de venir là. On va dédicacer cette muraille-là. Et on voit Néhémie qui joue un rôle important dans ces affaires-là. C'est Néhémie avec les autres, les chefs là, qui brandent l'action. Ils sont en avant de la parade. Une chose qu'on remarque... pour voir que c'est une activité spirituelle. Même la dédicace de ce temple-là dans les fêtes, dans les réjouissances, c'est une activité spirituelle. Une activité spirituelle de reconnaissance envers Dieu. Oui, ma soeur.
Juste ce que tu avais mentionné tantôt dans Zacharie 2:4, mm-hmm. voir que, à cause de la multitude de bancs d'épée, je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, je serai glorifié au milieu d'elle.
Amen.
Oui.
Je suis convaincu que ça a apporté vraiment une nouvelle flamme. Le fait de se plonger dans la parole là, a apporté ce désir-là. Et c'est vrai encore pour nous aujourd'hui. Là. Quand on passe du temps avec le Seigneur, là, il y a quelque chose qui bougeonne, là, qui brouille en nous, là, qui nous pousse. N'est-ce pas? Et c'est un encouragement à chacun de nous de faire tout ce qu'il faut, de passer du temps dans cette parole-là et redécouvrir notre Dieu. Oui.
Je trouve qu'ils avaient une grande foi, ces gens-là. À côté de moi, là, moi, que j'ai toutes ces connaissances. Ils n'avaient rien du tout. Puis, regarde, c'est magnifique. Moi, là, c'est vraiment là. C'est, moi, je trouve ça formidable. Et puis, c'est bien de faire des fêtes. Il me semble, bon, avant, dans les religions, maintenant, dans les religions orthodoxes, catholiques, mm-hmm. ils ont des fêtes. Mais je trouve que nous, évangéliques, on a laissé tomber les fêtes. C'est bon de le souligner, puis de faire la fête, dédicacer sa maison. Je trouve ça mignon. Les enfants, puis autres. C'est pas mauvais.
C'est pas mauvais. Mais c'est poussé par la reconnaissance.
Voilà.
C'est poussé par la reconnaissance.
Ben maintenant, par exemple, les orthodoxes, quand ils achètent une maison, ou je sais pas quoi.
C'est moi qui l'ai gagné.
C'est ma culture. Non, il y a un curé qui vient avec l'eau bénite, il fait plein de trucs. C'est des conneries. Mais. C'est des conneries avec l'eau bénite, il machin truc.
Oui. Le sens, ils ont perdu le sens.
Faire une fête. Ouais. Ça nous manque un peu la fête, un petit peu.
Oui.
On a tout laissé tomber parce qu'on est sous la grâce, mais pourquoi pas faire des fêtes comme ça, c'est bien ça.
Mais il y a aussi l'orgueil en nous, hein.
Oui.
Il ne faut pas l'oublier.
Oui.
Parce que c'est mes bras qui m'ont acquis cette maison-là.
Oui.
C'est mes études qui m'ont acquis cette maison. Là. Et l'Éternel avait dit ça aux enfants d'Israël. Là. Ouais. Quand vous serez dans le pays là, et vous mangez du miel, ne dites pas c'est mes bras qui m'ont... Non, Dieu l'a averti.
Ouais.
Il connaît le cas.
C'est délicat tout ça, c'est ça. Il faut si on fait une fête, il faut pour la gloire de Dieu.
Ah, non, sinon, Dieu. Intentionnel, ah, on le fait pour la gloire de Dieu. Ça, ouais. Salut, mon frère.
Je pense aux paroles du Seigneur Jésus quand il dit à la Samaritaine. C'est vrai que le peuple juif était beaucoup centré au temple, les célébrations, toujours autour du temple, la Jérusalem. Mais Jésus va encore plus loin et dit, non, c'est fini là. Le temple, peut-être vous allez adorer, avant vous adorez au temple. Et maintenant, vous l'adorez, il va y avoir un temps où vous l'adorez partout. Et donc on peut adorer Dieu, un peu remercier Dieu, un peu fêter chez nous. En remerciant Dieu pour tout ce qu'il nous donne. Donc les fêtes, on le fait dans nos cœurs. Pour Dieu, en lui disant, c'est un symbole de reconnaissance. Et on peut le faire n'importe quand, avec n'importe qui, et puis on peut le faire en famille, en église. Je vois des fois des gens qui se réunissent en bas et puis font une petite fête pour ses enfants. On est ouvert, on peut le faire partout. Donc, c'est vrai. Peut-être les latinos sont plus fêteux, il y en a qui ont moins, mais c'est ça la variété, c'est ça la diversité dans l'église.
Puis l'action de grâce, la fête de l'action de grâce, c'est une signification. Pourquoi il existe cette action de grâce? Il paraît qu'il mourait de faim les premiers colons, machin truc là. Et puis bon, alors c'était l'action de grâce.
Ouais.
C'est beau ça.
Ouais. Mais combien fait de l'action de grâce aujourd'hui pour l'action de grâce?
Pour l'action de grâce, oui.
Non, c'est juste.
Voilà. Est-ce qu'on fait beaucoup fait l'action de grâce? Peut-être pas pour l'action de grâce.
C'est peut-être la fête qui devrait être la plus fêtée chez les chrétiens.
Ouais. C'est la seule.
Remercier le Seigneur
pour tout, en commençant par le Fils, le don du Fils.
Mais Robert Charpentier dit ça, que l'action de grâce, c'est la seule fête obligatoire maintenant qui n'a pas subi de. Trop de transformation commerciale. Il y a un peu de commercial parce qu'il y a la dinde, puis il y a le repas, puis tout ça, mais c'est pas comme Noël où c'est qu'on est incité à aller dépenser une fortune. Mais une chose qui m'avait frappée, je me rappelle quand j'étais adolescente que j'avais lu toutes les fêtes dans l'Ancien Testament. Il y a la fête de la moisson, il y a la fête de la récolte.
Oui.
L'impression qui m'était restée, c'est n'importe quelle raison est bonne pour faire un party.
C'est bien.
Puis, pourquoi pas? Je veux dire, le Seigneur sait qu'on a besoin de se rappeler
de ci, de ça, de l'autre
affaire, puis de se le rappeler souvent. Puis c'est comme ça revient une fois par année, ou ça revient une fois par saison, ou ça revient... Et puis c'est régulier. On a besoin de ça. Même si on n'aime pas la routine, on est des bêtes de routine, on a besoin de ça pour...
Oui.
Mais je pense qu'en tant que chrétien aussi, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Le motif de nos fêtes. Vous serez surpris dans les fêtes à venir là. Dans quelques semaines, ce sera Noël. Combien de fêtes sont organisées où même Jésus-Christ n'est pas nommé pendant ces fêtes? Dans des familles chrétiennes.
Ah oui?
Ça peut arriver. On vient pour la bouffe. Oh oui, c'est Noël. On vient. Oui, c'est Noël. Est-ce qu'on prend le temps même pour dire merci Seigneur pour ton fils? Des fois, ça prend le bord, là. On a toutes choses à faire, là. Et puis des fois, on a des parents qui ne sont pas chrétiens et puis on a peur de... Comprends-tu, là? Tandis qu'on devrait être vraiment intentionnel dans nos actions, là. On vient fêter Noël. On parle de Jésus-Christ. On remercie Jésus-Christ. On rappelle que c'est Jésus-Christ qu'on fait.
Il y a un couple de nos amis qu'on a invités dernièrement chez nous qui nous disaient que tout le temps qu'ils ont élevé leurs enfants, ils leur ont toujours dit qu'à Noël, on ne donne pas des gros cadeaux. Là. C'est pas ça. Là. On ne met pas l'accent là-dessus. Là. C'est pas notre fête à nous autres, c'est la fête à Jésus.
Oui.
Mm-hmm. J'ai trouvé ça intéressant. Oui. On faisait ça un peu, nous autres aussi, chez nous, mais bon, il y avait d'autres influences aussi. La fête de Jésus, c'est vraiment sa fête. Comme ma fête à moi, c'est le 6 janvier, ben là, lui, c'est la fête le 25 décembre. Wow. Peut-être pas le 25 décembre.
Et en fait, tu donnes des cadeaux. Toi qui donnes des cadeaux, tu ne reçois pas des cadeaux. C'est ça? C'est la fête de Jésus, il s'est donné, n'est-ce pas? Ça, je l'ai essayé chez mes enfants. À la maison, je l'ai essayé, ça n'a pas marché. Là. J'ai dit, mais à votre anniversaire, donnez des cadeaux. Non, ça va marcher. Non. Oui, ma sœur. Ouais. Alors, nous avons plein de modèles dans la Bible où le peuple entre autres, ce peuple-là qui est revenu aux Écritures. J'espère que ça va nous ramener aux Écritures dans nos intentions de fête pour être reconnaissants. Et dédicacer des choses, je ne sais pas, dédicacer votre vie, quelque chose. À reconnaissance, pas pour le faire, plaisir de le faire, ou bien pour juste accomplir à la lettre de faire mon dédicace, non. C'est que ce soit quelque chose de sincère et de reconnaissance, que ce soit dans un élan de reconnaissance envers notre Dieu, tout ce qu'il a fait pour nous. Regardez ce qu'ils ont fait là. On en a parlé premièrement, la première action dans tout ce mouvement de dédicace, qu'est-ce qui est apparu en premier lieu? C'était la purification. C'est quoi le lien? Si c'est pas spirituel, là, on n'a pas d'affaire à faire la purification. Hey, les murs, on dédicace les murs. Il commence par la sanctification, la purification, pour se mettre à part. Ce temps-là qu'on va passer, on va le passer dans la présence de notre... On va le dédier à notre Dieu. On se met à part, on se purifie. Et vous savez, ils avaient toutes sortes de façons de se purifier, hein, dans l'Ancien Testament, sûrement, chacun de son côté, ils ont pratiqué. Peut-être qu'ils se sont lavés, se lavé les mains, peu importe. Ils se sont abstenus peut-être, je ne sais pas. Le texte ne nous le dit pas, mais ils se sont purifiés, ça c'est sûr. Ils se sont purifiés, ils se sont mis à part pour cette activité qu'ils ont faire devant Dieu, pour Dieu. C'est une activité spirituelle dédiée à leur Dieu avant d'entrer. En fait, vous allez voir que toutes les cordes, toutes les chorales, les chœurs qui vont être mis en branle, vont être mis en marche, ils vont s'arrêter où? Dans le temple. Ils vont s'arrêter exactement dans le temple. Puis on voit le temple au milieu de toutes ces activités-là, où on sait que le temple représente la présence de Dieu pour ce peuple-là, n'est-ce pas? C'est Dieu allait, dans sa promesse, habiter dans le temple. Nous avons vu avec notre étude dans Exode, qu'on vient de terminer, comment Dieu voulait habiter parmi son peuple dans le temple. Alors, les deux cœurs se sont formés sur les murailles. Et je trouve ça bien qu'on puisse lire cela. Il y a des noms, beaucoup de noms là-dedans, mais c'est correct, on a tous des noms. Et la façon que c'est organisé, je pense que l'intention est très révélateur dans ce texte-là. Je demanderai à quelqu'un de lire très fort les versets 30 à 34. À 43, excuse-moi. Je vais lire un verset pour tester votre attention.
Les sacrificateurs et les lévites se purifièrent et ils purifièrent le peuple, les portes de la muraille. Le peuple et les portes de la muraille.
Et la muraille.
Je fis monter sur la muraille les chefs de Juda et je formai deux grands cœurs. Le premier se mit en marche du côté droit sur la muraille vers la porte du fumier. Derrière eux marchaient Osée et la moitié des chefs de Juda. Azaria, Esdras, Meshulam, Juda, Benjamin, Shemaïa et Jérémie.
34.
Des fils de sacrificateurs avec les trompettes. Zacharie, fils de Jonathan, fils de Shemaïa, fils de Matania, fils de Miché, fils de Zakur, fils d'Asaph. Et ses frères, Shemaïa, Azaréel, Milalaï, Nétanéel, Juda et Anani, avec les instruments de musique de David, homme de Dieu, Esdras, le scribe, était à leur tête. À la porte de la source et en face d'eux, ils montèrent les marches de la cité de David par la montée de la muraille au-dessus de la maison de David jusqu'à la porte des eaux vers l'est. Le second cœur se mit en marche du côté gauche. J'étais derrière lui avec l'autre moitié du peuple sur la muraille. Par-dessus la tour des fours, on alla jusqu'à la muraille large. Puis au-dessus de la porte d'Éphraïm, de la vieille porte, de la porte des poissons, de la tour de Hananéel, et de la tour de Méa jusqu'à la porte des brebis, et l'on s'arrêta à la porte de la prison. Les deux cœurs s'arrêtèrent dans la maison de Dieu, de même moi et ceux des magistrats qui étaient avec moi. Et les sacrificateurs, Eliakim, Maaseya, Minyamin, Miché, Elio et Naï, Zacharie, Anania, avec des trompettes, et Masaïa, Shemaïa, Elam, Ézer, et les chantres se firent entendre avec comme inspecteur Yisrahia. Bon. les gens offrirent ce jour-là de nombreux sacrifices et se livrèrent aux réjouissances car Dieu leur avait donné un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi et l'on entendit de loin la joie de Jérusalem.
Je sais que les noms nous ont un petit peu distraits là, OK? Parce que, premièrement, si vous cherchez des noms non communs pour vos enfants, allez-y. Ils ne sont pas communs pour vos enfants, c'est le répertoire idéal. Hein? Mais outre ça, si vous avez pu suivre là, imaginez ça sur le mur. Aïe, aïe, les images qu'on avait vues là, nous donnaient une petite idée. Mais quand tu penses à tout ce monde-là...
Mais t'es grand le mur alors.
C'est ça.
On fait le tour de la ville.
Hey, c'est un spectacle ça.
Oui.
C'est pas peu dire, c'est pas une petite affaire. Oh.
C'est beau à voir.
Bon, je pense que c'est impressionnant. C'est impressionnant. Mais si tu penses vraiment, là, puis Néhémie prend le temps de le dire, mais toutes les joueurs, là, toutes les personnes qui sont impliquées là-dedans, là, puis qu'est-ce qu'ils faisaient? Commencer avec les cymbales, les trompettes, les chants. Imaginez tout ce monde-là, dans un muraille, là, sur un muraille, là, qui commence à jouer, à chanter comme ça, là. Ça doit être impressionnant. Ça doit être impressionnant.
Puis ceux en bas qui suivent dans les rues, puis les enfants qui courent, tout ça.
Waouh!
C'est beau à voir, en tout cas.
C'est
la joie, là, au revoir,
ouais.
Du bonheur.
Ouais. Ouais.
Mais si on verrait quelqu'un marcher comme ça sur les murailles de Québec, on dirait,
ils sont fous. C'est pas les mêmes murailles. C'est
pas les
mêmes murailles.
C'est pas les mêmes murailles.
C'est pas les mêmes murailles.
Là, c'est
très large,
là.
Oui, c'est ça, ben oui. Oh là là,
mais aussi, je pense que c'est impressionnant. Et puis, un scénario comme ça, c'est pas quelque chose qu'on voit chaque jour. Surtout ici, en Amérique du Nord, on verrait pas ça. On serait qualifié de fou. Ça, c'est garanti, là, OK? Si on essaie de faire une activité... Mais dans les églises, ils pensent qu'on était des fous parce qu'on adore Dieu. Un Dieu qu'on voit pas. Bon, Dieu fait que c'est pas difficile d'attribuer des noms comme ça aux chrétiens. C'est correct. C'est normal que les gens comprennent pas, mais quand on se met dans ce contexte-là, un mur, tout ce monde-là qui ont travaillé, les soldats, on remarque aussi que les détails dans le style de description de Néhémie, là, est très détaillé dans les noms. Et on l'a déjà vu dans la répartition des tâches de la muraille. Il leur dit chaque personne avec qui tu vas travailler, etc., là. Puis là, il nous donne des détails sur qui joue quoi, des différents rôles, là, que les gens jouent. Pour cette dédicace de la muraille. Et Esdras et Néhémie sont pleins dedans. Ils sont là-dedans. Ils s'impliquent, ils dirigent, mais ils participent à l'adoration. Moi, je lisais ça et puis j'essaie d'imaginer toute cette chorale-là. Deux chorales. L'une en arrière de l'autre, là. Hein? Il a dit l'une en arrière de l'autre.
Non, ils partent chacun comme ça.
Non,
il y en a un. Mais je pense qu'il y en a un qui dit « j'étais en arrière ». Dans l'un des textes, là, il dit juste « en arrière ». En tout cas, on va dire « suivait ». Oui, je pense qu'il dit « suivait ».
Il y en a un qui part du côté droit, puis l'autre qui part du côté gauche.
Ouais. Peu importe. Le texte nous dit, on va juste retourner dans le texte, on va le voir. Mais l'idée est là. Hein, il y avait de la réjouissance. Beaucoup de monde qui s'implique avec beaucoup d'instruments. Et on voit les chantres hein, avec Asaph. Pas forcément le Asaph qu'on connaît dans l'Ancien Testament. Mais je pense que beaucoup de ces noms-là, sont nommés comme les petits-enfants de ces personnes-là. Et ça, si tu retournes dans des chroniques, tu vas voir, c'est presque les mêmes noms qui se répètent, mais c'est pas les mêmes noms qui sont là, quand même. Alors, le peuple qui se réjouit de la présence de Dieu, de l'accomplissement de Dieu, de la victoire, quand tu penses à tout cela. Combien de temps ils ont pris, vous vous rappelez, pour bâtir ça? 52 jours. C'est ce que le texte nous a dit, on l'a pas dit. 52 jours pour bâtir tout cela. Waouh, on a fait tout ça de 52 jours. On peut le fêter. Gloire à Dieu. Et tout cela, c'était à la gloire de Dieu. C'est pas parce que je pense qu'ils voulaient vivre et louer leur force, leur accomplissement, leurs exploits. Mais ils voient un travail accompli par Dieu parce que c'était la promesse de Dieu. N'oublie pas là. Initialement, c'est Dieu qui a dit, allez, Il a pourvu à tout ce qu'ils avaient besoin pour en arriver là. Imaginez Josué, imaginez Zorobabel, imaginez tous ces personnes-là, Néhémie, Esdras, qui étaient au début de l'histoire, au début de ce projet-là, et qui sont rendus là. Je pense que ces gars-là ont pu compter sur la fidélité de Dieu. Ils ont vu la fidélité de Dieu. Et en voyant la fidélité de Dieu, ils ne se sont pas gênés. Ils disent, en ce jour-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au milieu de toutes ces deux chorales énormes de chants, de danse, qu'est-ce qu'ils ont fait? De nombreux sacrifices. Je pense qu'il y avait des danses, sauf que c'est action de grâce aussi, là aussi. Peut-être qu'il y avait des sacrifices pour l'expiation du péché, pour la purification aussi. Ils offrent beaucoup de sacrifices. Puis après cela, ils ont le visage terne et puis ils sont rentrés chez eux. Non? Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Réjouissez-vous! Il y a deux semaines, je pense qu'on avait vu avec Ronald, la joie du Seigneur est ma force. Ils ont la joie. Ils ont eu la joie de ce Seigneur. Ils vont le répéter dans le texte tantôt. Que la joie du Seigneur est leur force. Ils sont capables de passer avec. En mémoire, la joie que Dieu leur procure, la victoire que Dieu les procure, ça leur donne la force pour avancer, en arriver là. Car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Est-ce qu'on peut compter les sujets de joie que Dieu nous a donnés en tant que chrétiens aujourd'hui? Je pense qu'il y a un chant qui dit, même si on... Bienfait de Dieu, oui, oui. Puis je pense qu'il y a un autre qui parle de l'amour de Dieu. Si avait toute l'eau était transformée en encre, je pense de la mer. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Waouh, waouh. Le triomphe de la grâce de Dieu sur les obstacles. Le triomphe. Avec Dieu, nous sommes victorieux. Avoir les yeux fixés sur Dieu, sur sa promesse. Restons attachés à sa parole. Restons attachés à sa parole. Restons attachés à sa parole. Vous avez remarqué qu'il y avait beaucoup, une diversité de dons là-dedans. Là, hein? Les mêmes à l'intérieur des Lévites. Il n'y avait pas un qui dit, moi, je suis sacrificateur, toi, t'es rien. Non. On va les Lévites qui servent à la table, qui servent. Nous avons énuméré pas mal de tâches qu'ils avaient à faire. Mais tout était au service de Dieu là-dedans. C'était des serviteurs à part entière, au même titre. C'était des serviteurs. Dieu a donné ces dons-là. On avait vu dans la construction du tabernacle. Dieu dit, c'est moi-même qui a rendu un tel capable de travailler l'or, de travailler l'argent, etc., de faire toutes ces choses-là. Je les ai commandés de le faire, par exemple. Mais c'est moi qui leur ai donné cette habilité, cette capacité. De les faire. Et tout vient de Dieu. Il y a diversité de dons. Dans 1 Corinthiens, on peut lire, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de service, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'unité commune, l'utilité commune. Plus loin, il dit, en effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. On a plein de raisons d'être reconnaissants en tant que chrétiens.